Voilà, bonjour, donc je suis Frédéric Soja, maître de conférence à l'UFM d'Aix-Marseille. Je co-interviens ce matin avec Roland Guagou qui se présentera après moi. On a décidé, après échange entre nous, de procéder de la manière suivante. On va essayer, au cours d'un exposé relativement court, 45 minutes à peu près, de l'un et l'autre préciser la façon dont on mobilise nos travaux de recherche dans notre activité de formateur, puisque nous sommes tous les deux formateurs d'enseignants en IUFM, pour ce qui me concerne donc dans l'UFM d'Aix-Marseille et Roland à l'UFM de Clermont-Ferrand. Et il nous a semblé intéressant de se livrer à cet exercice-là, qui d'ailleurs est pas stimulant, mais pas forcément évident, qui nous conduit finalement à revenir sur comment on se sert de nos matériaux de recherche, de nos travaux, des hypothèses qu'on peut formuler à partir de ces travaux, pour nourrir la formation des enseignants, et en particulier comment on mobilise ces travaux dans notre propre activité. Donc pour ce qui me concerne, alors le scénario est le suivant. Il y aura donc une présentation de trois quarts d'heure à laquelle je vais me livrer tout de suite. Un premier temps d'échange, je crois que c'est comme ça, Roland, qu'on avait un premier temps d'échange à partir de cette présentation, à la fois avec vous pour des questions éventuelles, des réactions, mais aussi avec Roland. Puis Roland procédera de même à la présentation de ces trois quarts d'heure, et ensuite on procédera, il y aura un deuxième temps d'échange avec vous et avec moi à partir de ce qu'aura présenté Roland, et ensuite on essaiera d'engager une discussion un peu plus large sur les questions qu'on a l'un et l'autre essayé de soulever, les complémentarités entre nos deux approches, les points de divergence éventuels, voire les points de discussion plus aigus qui mériteraient d'être approfondis, mais toujours en ayant peut-être que la perspective qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de travailler en vue de la formation. Et qu'est-ce qu'on fait finalement des travaux que nous menons les uns et les autres par rapport à la formation? Quelle sorte de didactisation on opère à partir de ces matériaux-là pour en faire des instruments de formation qui soient dotés, je dirais, d'une certaine maniabilité en formation, hein. Voilà, donc pour ce qui me concerne, top chrono, j'essaie de pas dépasser parce que je suis un peu bavard. Je vais commencer quand même par présenter, je pense que Roland fera de même, présenter de manière très rapide quel est mon cadre d'analyse. Donc moi j'entre dans l'analyse du travail enseignant à partir d'un point de vue qui est ergonomique. Donc je vais dire quelques mots là-dessus, sur cette entrée-là. Pour faire vite, bon, l'ergonomie, c'est un point de vue qui consiste à essayer d'analyser le travail à partir des tensions entre, d'un côté, un souci d'efficacité dans son travail, d'efficacité par rapport à l'objet du travail. Donc, concernant l'enseignant, il s'agit, je vais le formuler de manière assez large, d'organiser les conditions de l'étude des élèves. Ce qui inclut, j'utilise cette formule un peu générique parce qu'elle inclut à la fois des questions de mise en place d'un cadre qui permet l'apprentissage et l'étude, qui permet l'enseignement et l'apprentissage, mais elle inclut aussi la question des savoirs, même si elle n'est pas, on va dire, au centre de l'approche que j'essaie de développer. Mais dire qu'elle n'est pas au centre, ça ne veut pas dire que je considère cette question-là des contenus de savoir comme secondaire. J'essaierai d'y revenir. Roland, lui, a une entrée plus didactique. Il articule une vision ergonomique et didactique, et donc on peut considérer que cette question des savoirs dont sont des enjeux de savoir dont sont porteuses les tâches d'enseignement est sans doute plus au centre du travail que présentera Roland. Voilà, donc tension entre efficacité d'un côté et santé de l'autre, santé au sens large, c'est-à-dire pas seulement l'absence de maladie, hein, mais au sens de l'OMS, santé comme processus d'accomplissement de soi, de réalisation, de développement professionnel, etc. Alors, ce point de vue, il me semble, et là je pense qu'on sera assez d'accord avec Roland, qu'il conduit à avoir une vision peut-être un peu renouvelée de à la fois du travail et de la formation des enseignants à ce travail. J'ai juste choisi une citation parmi de multiples références possibles, une citation de Philippe Davezy qui a le mérite de dire les choses assez crûment, hein. Puisqu'il déclare « Travailler implique de sortir du discours pour se confronter avec le monde. Le mot n'est pas la chose et il va falloir que quelqu'un se la farcisse la chose. C'est bien structurellement que le travail réel est différent du travail théorique. » Alors, au-delà d'une analyse plus sur un plan plus théorique qu'on pourrait faire de cette référence-là qui vient de la psychodynamique du travail. Je ne veux pas du tout m'apesantir sur ces choses-là ce matin. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il met en avant cette question de l'action. Il va falloir que quelqu'un se la farcisse la chose étant pour l'enseignant des élèves dont il faut organiser les conditions de l'étude. Et donc la question aussi qui vient tout de suite après cette question de l'action, qui est celle de comment on accroît le pouvoir d'agir des enseignants qu'on a la charge de former. Hein. Voilà, et puis deuxième référence, qui sera en arrière-plan aussi de ma présentation, qui est une référence ancienne, mais qui, de mon point de vue, même si là encore, sur le plan théorique, on pourrait émettre un certain nombre de réserves, mais encore une fois, c'est pas mon propos ce matin, qui a l'avantage de mettre en relation ce que Malglev, donc, dans son ouvrage sur l'alternance, appelait savoir en usage et formalisation, en indiquant que savoir en usage et formalisation sont les deux aspects complémentaires de la compétence. Donc premier point qui me paraît important, cette idée que il y a du savoir en usage dans l'action, dans l'activité. Il y a du savoir en acte, il y a, comme disait Vergniaud, des formes de conceptualisation au fond de l'action. Et en même temps, le deuxième pôle par rapport auquel se construit la compétence, c'est la formalisation justement de ces savoirs en acte. Et deuxième aspect de la référence à Malglev qui m'intéresse, puisque Malglev poursuit en disant « compétence qui, au terme de notre analyse, se présente donc comme une structure dynamique ». Donc cette notion de structure dynamique m'intéresse et j'essaierai de vous montrer pourquoi et qu'est-ce que j'essaie d'en faire en formation. Et il précise dont le moteur n'est autre que l'activité. Donc là aussi, il remet au premier plan le rôle de l'activité comme moteur de développement de cette structure dynamique sous certaines conditions. Et cette question de sous certaines conditions est bien la question qu'on se pose en formation. Donc à partir de là, un premier point qui sera relativement bref là dans le cadre de cet exposé. Qu'est-ce que j'entends par activité enseignante et comment elle se développe? Donc quelques points de repère très rapides pour que vous compreniez ensuite le travail que j'essaie de faire en formation. Et ensuite, deuxième question, comment concevoir des contenus et des dispositifs de formation qui, justement, alimentent la vitalité de cette structure dynamique, pour reprendre les termes de Malglev, qui est la compétence des enseignants, à partir de son moteur que serait leur activité. Alors, je vais aller très vite parce que dans le préambule, du coup, j'ai anticipé sur quelques éléments que j'avais prévu sur lesquels j'avais prévu de revenir en début de cet exposé. La posture qui est la mienne, et je dirais qui est une posture à la fois de chercheur mais aussi de formateur, c'est de reconnaître à tous les sens du terme le travail des enseignants. J'emprunte l'usage de cette formulation, reconnaître ou reconnaissance du travail des enseignants, notamment une démarche dite ergologique, reconnaître à tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois prendre ce travail au sérieux, et je dirais qu'il soit un travail d'expert ou de novice ou de débutant, hein, c'est-à-dire considérer que il faut le regarder de près pour comprendre qu'est-ce qui le tient, quelle est sa cohérence, etc., quelles sont les valeurs qui le portent. Et reconnaître aussi parce que il s'agit justement d'engager une autre forme de connaissance peut-être de ce travail à partir de son analyse. Alors, la première question que j'ai posée, je vais aller très vite, mais je voulais écarter un reproche qui est fait assez fréquemment aux ergonomes qu'on a souvent appelé le syndrome des ergonomes, c'est-à-dire cette sorte de tendance qui est pas réelle du tout dans l'ergonomie et de l'activité, mais dont on a pu accuser les ergonomes, d'avoir finalement une propension à mettre en avant ce qui est de l'ordre de la créativité dans le travail, ce qui est de l'ordre de l'inventivité, au détriment de ce qui peut faire problème dans ce travail. Hein. Donc mon point de vue n'est pas celui-là, c'est pas du tout d'idéaliser le travail des enseignants, c'est plutôt, encore une fois, de le prendre au sérieux et d'essayer d'en faire une analyse, ou plutôt des formes de co-analyse, qui permettent justement à la fois de reconnaître les points d'appui dont il est porteur, mais aussi de le mettre en mouvement, de le développer. Donc cette façon, cette posture-là et le cadre théorique qui la soutient, je prétends qu'elle permet de porter un regard renouvelé, hein, de poser les questions de formation et de transformation des pratiques enseignantes. Et c'est ça qui va me guider un petit peu dans ce que je vais essayer de vous montrer ce matin dans cet exposé. Ces questions donc étant abordées à partir d'une analyse de l'activité réelle des enseignants. Alors très vite, pour caractériser cette activité, c'est à la fois une activité productive, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers un objet de travail, hein, l'organisation des conditions de l'étude des élèves. Donc elle vise aussi une efficacité qu'on pourrait qualifier d'objective, hein, même si cette efficacité objective n'est pas particulièrement facile à évaluer dans le cas de l'enseignement qui est un travail avec et sur autrui. Donc il y a tout un tas de travaux qui se posent ces questions-là, de comment évaluer l'efficacité enseignante, souvent avec une tendance à neutraliser la complexité de cette question, comment on évalue l'efficacité d'une pratique. Donc des aspects productifs, des aspects constructifs qui sont liés au fait que l'activité de travail pour l'enseignant, c'est un moyen au service de l'activité des élèves, mais c'est aussi en quelque sorte un moyen de développement personnel. C'est-à-dire que là, on retrouve cette question de la santé, des effets en retour de l'objet du travail sur le sujet qu'est l'enseignant, effet en retour plus ou moins positif qu'il doit gérer dans son activité au même titre qu'il doit gérer l'activité des élèves. Autrement dit, c'est toute la question des usages de soi, pour reprendre une formule qu'utilise Yves Schwartz. Comment user de soi-même de manière relativement efficace, économique, efficiente, pour faire face aux multiples défis dont les situations professionnelles plus ou moins problématiques que les jeunes enseignants ont à rencontrer sont porteuses. Donc c'est cette idée, première idée, que cette double orientation à la fois productive et constructive de l'activité fait qu'on a à faire une activité multifinalisée. Et là, je pense que c'est un point aussi d'accord avec Roland. La finalité de l'enseignement ne se réduit pas à l'organisation de l'apprentissage des élèves. Il y a à prendre en compte justement cette question des effets en retour de l'activité sur l'enseignant lui-même et de la façon dont il est conduit à gérer cette activité. Et je pense en particulier, par rapport à mes propres travaux, à de jeunes enseignants débutants ou des stagiaires qui se retrouvent dans des conditions très dégradées d'exercice du métier et dont on voit bien à quel point cette composante-là est décisive dans les décisions qui sont conduites à prendre, qui affectent sans doute la pertinence didactique de leur travail, mais qui sont aussi des formes de compromis qui leur permettent de tenir dans certaines classes. Et une des questions que je voudrais poser là, c'est justement comment en formation on peut aider à une réactualisation de ces compromis. Une fois qu'on les a pris au sérieux, c'est-à-dire une fois qu'on s'est accordé sur le fait qu'il n'y a pas d'activité sans compromis, entre d'un côté, je reviendrai avec un petit modèle très rapidement, ce qu'on demande aux enseignants et de l'autre, ce que ça leur demande à eux de faire ce qu'on leur demande de faire. Donc il y a forcément des compromis à opérer entre ces deux dimensions, plus ou moins en tension l'une avec l'autre. Comment aider à une réactualisation de ces compromis dans le sens d'une efficacité accrue, à la fois en direction de l'activité des élèves, et y compris là, je retrouve des préoccupations de nature didactique, mais aussi d'une efficacité accrue du point de vue de l'activité de l'enseignant lui-même. C'est une activité également située, alors je prends située là pas au sens de l'action située du courant qui existe en analyse du travail, c'est de manière plus large, elle est située dans des milieux de travail particuliers, elle est située dans une histoire, celle de l'école, de l'établissement, celle du métier, etc. Elle est aussi située dans l'histoire personnelle de l'acteur lui-même, de l'enseignant. Et c'est aussi une activité normée, et ça j'y tiens parce que par rapport à d'autres approches, je pense qu'on ne peut pas comprendre l'activité de l'enseignant, y compris des enseignants débutants en formation, si on ne la réfère pas aux prescriptions. Donc ces normes, c'est à la fois des prescriptions, c'est ce que Schwartz appelle des normes antécédentes, c'est-à-dire des normes qui sont déjà là avant l'entrée dans l'activité située, qui sont faites à la fois des prescriptions, alors que je vais reprendre le vocabulaire de Roland, des prescriptions primaires, c'est-à-dire ce qui définit, ce qui organise le travail de l'enseignant, les textes réglementaires officiels, les programmes, etc., cahier des charges, référentiel de compétences, mais aussi de prescriptions secondaires, c'est le vocabulaire qu'utilise Roland, c'est-à-dire celles dont l'institut de formation est lui-même porteur. Comment il reprend ses prescriptions primaires à son compte, avec forcément une activité d'interprétation qui le conduit à émettre lui-même des prescriptions secondaires. Avec, première question, vous voyez, celle des écarts plus ou moins importants entre ces prescriptions primaires et secondaires, écarts qui bien souvent sont laissés à la charge des stagiaires, mais normés aussi au sens où ces normes antécédentes, celles qui sont déjà là, elles font toujours l'objet de renormalisation dans l'activité, c'est-à-dire qu'elles sont retravaillées resingularisée, remise à la main du sujet par rapport justement au compromis qu'il est conduit à passer dans son activité. Donc cette idée, et il me semble que c'est intéressant d'avoir en tête ce processus sur lequel insiste énormément Yves Schwartz dans ses analyses, hein, en référence à un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, cette idée que il n'y a pas d'activité sans normes. Et peut-être qu'un des problèmes aujourd'hui du travail enseignant, c'est qu'on ne sait plus très bien quelles sont ces normes. Il n'y a plus de lisibilité de ces normes-là. À une époque où on avait des écoles normales, une des fonctions de ces écoles, c'était de fixer des normes professionnelles. Aujourd'hui, on a une sorte de déshérence de ces normes-là, et à laquelle je crois chacun de nous est confronté en formation. Hein, quand des collègues disent « mais je sors d'une formation des anciens de SECPA », l'un d'entre eux disant, et il se faisant l'écho de beaucoup de ses collègues, est-ce qu'avec ces élèves-là, on a le droit d'eux ? C'est comme ça qu'il formule la question. D'exiger le silence absolu, etc. C'est-à-dire, finalement, cette question des exigibles du métier qui renvoie des normes qui devraient être partagées, on se rend compte que ces normes-là le sont de moins en moins partagées. Il y a de moins en moins d'accord sur ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation avec tel ou tel groupe d'élèves. Donc, des normes d'un côté. Je rajouterai, j'ai oublié de le dire, que dans cet ensemble que Schwartz définit comme les normes antécédentes, il ajoute aussi tout ce qui est de l'ordre des savoirs de référence, contributifs d'une formation des enseignants ou du travail enseignant plus largement. Et donc, ces normes font l'objet de processus de renormalisation, c'est-à-dire qu'elles sont retravaillées, encore une fois, à l'épreuve du réel, je dirais. Alors, je vais aller très vite. Petite formalisation que j'emprunte à François Hubeau, là aussi qui mériterait discussion, mais encore une fois, c'est pas mon problème ce matin, qui consiste à mettre un petit peu en forme ce que je viens de présenter à partir d'un modèle de l'activité. Donc d'un côté, les prescriptions, hein, normes antécédentes au sens large, ce qu'on demande, les savoirs de référence, etc. De l'autre, l'opérateur, qui est le terme générique qu'utilisent les ergonomes, hein, donc l'enseignant, le sujet, moi je parlerai plus volontiers de sujet dans mon cadre théorique, ce que ça demande à l'opérateur de faire ce qu'on lui demande de faire, avec cette idée que il existe, comme le dit Hubeau, un conflit de logique entre ce qu'on demande et ce que ça demande, donc des tensions, des conflits, des dilemmes, etc. Que du coup, l'activité qui est mise en œuvre pour répondre aux prescriptions, mais en prenant en compte ce que ça me demande, elle est forcément faite de compromis opératoires, hein, qui est un terme central en ergonomie, hein, c'est-à-dire de façons de faire qui sont provisoirement une manière de prendre en compte à la fois le souci d'efficacité objective par rapport à ce qu'on me demande, mais aussi ce que j'appellerais un souci d'efficacité subjective, c'est-à-dire la gestion de ma propre activité, la gestion de l'usage que je fais de moi-même. L'action, donc, c'est la partie émergée, on pourrait dire, de l'activité. Et puis, ça débouche sur une efficacité qui, vous l'aurez compris à partir de cette entrée, efficacité qui est double. Efficacité, bon, que je qualifie, c'est pas les termes qu'utilise Hubeau, d'objective en référence aux prescriptions, c'est-à-dire dès lors qu'on mesure l'écart entre l'efficacité de l'enseignant et ce qu'il était censé faire, les prescriptions, ce qu'on lui avait demandé de faire, mais aussi efficacité subjective, celle qui reboucle sur l'opérateur lui-même. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche de François Hubeau, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait que, et là c'est un peu en rupture avec certains modèles managériaux de l'efficacité, il parle d'efficacité d'un système de travail, on pourrait dire d'un système de formation, et il parle d'efficacité au singulier pour désigner à la fois sa composante objective et sa composante subjective. Vous voyez qu'il y a quand même une forte tendance dans notre institution, et notamment au niveau de ses managers, de se centrer sur l'efficacité objective au détriment de l'efficacité subjective, et de se centrer sur l'action, c'est-à-dire les parties émergées, alors voilà les termes qu'utilise François Hubeau, l'activité c'est ce qu'on fait, l'action c'est ce qu'on voit de ce qu'on fait, et l'efficacité c'est ce que ça fait, à la fois par rapport au plan objectif et au plan subjectif, ce que ça fait aux prescriptions et ce que ça fait au sujet lui-même, d'accord ? Vous voyez qu'il y a quand même une forte tendance, y compris dans certains travaux de recherche, à occulter un certain nombre de dimensions qui sont pourtant constitutives de ce que François Hubeau appelle un système de travail ou de formation. Alors, j'ai dit qu'il y avait un certain nombre de critiques qu'on pouvait formuler. J'en formule une, simplement parce qu'elle va être utile dans la suite de mon exposé. C'est que réduire l'activité à ce qu'on fait, c'est s'empêcher de comprendre que l'activité, c'est aussi justement tout ce qu'on ne fait pas, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qu'on voudrait faire. ce que Claude appelle les préoccupations. Et mon point de vue, c'est que on ne peut pas comprendre les occupations d'un stagiaire ou d'un débutant sans se demander ce qui le préoccupe. Autrement dit, sans se poser la question de ce qu'il cherche à faire sans y parvenir, ce qu'il voudrait faire sans trouver les moyens de le faire, ce qu'il s'interdit de faire pour telle ou telle raison, etc. Donc, ce point de discussion par rapport à la présentation du beau m'amène à considérer que l'activité, c'est pas seulement ce qui est effectivement fait, c'est aussi tout ce que Claude appelle le réel de l'activité, c'est-à-dire l'ensemble des activités possibles et impossibles au moment où on a agi de telle ou telle manière. Voilà, donc, bon, je passe là, parce que ça ne nous intéresse pas vraiment. Hubo distingue donc des indicateurs d'activité d'un côté, indicateurs de résultats, même si, du point de vue du pilotage, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, je vais venir maintenant donc à des principes plus précis sur lesquels je vais illustrer par deux exemples d'intervention en formation. J'essaie de considérer qu'il y a dans l'activité des enseignants et notamment des débutants ce que j'appellerais à la suite de Vallon des alternances fonctionnelles, hein, et notamment des alternances entre activités relatives à soi-même et activités relatives aux élèves, et qu'il y a forcément des tensions entre ces deux orientations de l'activité. Et qu'il existe aussi une sorte, alors je reprends un terme là qui vient de la didactique de Régine Douady, mais en le transposant sur un autre registre, il existe aussi ce que j'appellerais volontiers une sorte de dialectique outil-objet, alors à deux niveaux, d'abord entre l'activité de l'enseignant et l'activité des élèves. Alors, ce que j'entends par là, c'est le fait que chez les enseignants débutants, les élèves sont en quelque sorte au point de départ de la construction de leurs compétences professionnelles, des moyens d'apprendre le métier, et donc pas vraiment les objets de leur activité, au sens fort. Et que l'objet de leur activité, c'est plutôt justement apprendre à trouver un usage de soi plus efficient, à trouver des formes, comme dit Ria, de confort professionnel qui permettent de faire ce que j'ai à faire dans de bonnes conditions, etc. Et puis, il y a dialectique outil-objet, ça veut dire que ces processus-là, ils peuvent s'inverser aussi, et que à d'autres moments, et sous certaines conditions, et c'est un des enjeux de la formation, les élèves peuvent redevenir des objets de l'activité de l'enseignant, et auquel cas l'enseignant devient lui-même un moyen au service de l'activité des élèves. Donc c'est intéressant de s'intéresser à ces transformations, hein, et de voir comment le développement professionnel est parcouru en quelque sorte de cette tension, avec des moments, alors là je vais reprendre les termes de Vallon, plutôt d'orientation centripète, où l'activité est vraiment tournée par rapport au souci d'élaboration de soi, de son usage de soi, etc. Et d'autres moments où l'activité est plutôt d'orientation centrifuge, c'est-à-dire est tournée vers l'activité des élèves, en incluant là, et bien entendu, la réflexion de nature didactique. Et en même temps, on se rend compte que cette alternance-là, cette dialectique outil-objet, on la retrouve dans le statut qu'on peut accorder à la tâche. Donc là, je parle de la tâche prescrite aux élèves, pas la tâche qui est assignée à l'enseignant, celle que l'enseignant assigne à ses élèves, en considérant que la tâche est un instrument important dans le travail de l'enseignant, instrument à la fois de pilotage de la classe, de mise au travail des élèves, mais aussi d'organisation des apprentissages. Et on se rend compte que là aussi, quand on regarde le statut qui est accordé à la tâche, selon le niveau de, alors le terme de niveau, je le mets entre guillemets, mais selon le niveau de développement, selon la configuration provisoire d'activité liée à telle ou telle étape du développement, on va avoir des tâches qui sont plutôt tournées du côté justement des effets qu'elles génèrent chez l'enseignant en termes de confort professionnel, et qui par exemple vont permettre une mise en ordre de la classe, une mise au travail des élèves rapide, j'y reviendrai par rapport à l'activité des débutants avec un exemple en formation, et à d'autres moments où, lorsque ces préoccupations quasiment vitales ont trouvé matière à se recycler de manière concrète, où on se rend compte que les enseignants débutants se reposent la question du sens de ce qu'ils font et de ce qu'ils font faire aux élèves. C'est-à-dire où on retrouve là le souci de reconfigurer les tâches proposées en se posant la question de leur pertinence didactique. Donc, l'idée qui est vraiment une idée centrale et qui, à mon avis, est une piste intéressante à creuser en formation, qui est de se poser la question de quel type de tâche, selon le degré de développement de l'enseignant avec lequel on travaille, quel type de tâche on met dans ses mains, à la fois pour recycler ses préoccupations actuelles, mais aussi pour aller au-devant de ses préoccupations et en quelque sorte faire des incursions sur la deuxième fonction de la tâche, qui est sa fonctionnalité didactique. Donc la tâche comme instrument biface, parce que, je ne vais pas le développer là, mais on voit bien que la tâche c'est à la fois un instrument pour l'enseignant, mais c'est aussi un instrument de l'activité des élèves. Donc c'est un aspect que je vais laisser de côté dans cet exposé. Mais je reprends donc de manière un peu synthétique ce que je viens d'évoquer. La tâche comme moyen de prendre la classe en fournissant aux élèves un objet qui finalise et organise leur travail. Et la tâche également, et de manière simultanée en tout cas, pas forcément en même temps, mais de manière indissociable, la tâche comme objet de conception didactique qui devient un moyen d'apprentissage pour les élèves. Ce que j'appelle cette dialectique outil-objet ou objet-moyen. Voilà, alors à partir de là, un premier exemple qui s'appuie sur alors des travaux de recherche communs à l'UCRIA qui intervient, si je ne m'abuse, demain, c'est ça. Et puis à mes propres travaux qui nous ont conduit à nous retrouver sur un terrain un peu commun, et notamment en formation de formateurs. Donc on a essayé de réfléchir à cette idée d'efficacité dynamique qui se construit tout au long du développement professionnel des enseignants débutants, et je vais essayer de vous montrer ce qu'on fait de ça justement en formation. Alors voilà en gros le schéma qui est à un stade d'élaboration non achevé, qui est un chantier en cours de travail, je dirais. Première critique, par exemple, niveau, je parlerai plus de niveau, mais plutôt de configuration d'activité ou de forme provisoire d'adaptation, mais qui se caractérise par le fait que là, on a affaire aux grands débutants, je dirais, dont un certain nombre de caractéristiques peuvent être définies de la manière suivante. Ils sont souvent, notamment face à des classes difficiles, dans la surnégociation. On assiste chez eux à des formes de renoncement, et notamment de renoncement disciplinaire pour les professeurs de collège et lycée. Ils sont mus par un souci de paix sociale. Et à ce stade-là, la place des savoirs est très difficile à identifier. C'est ce qui a conduit Lucria à parler de savoir fantôme. Alors moi, je pourrais le regarder du côté de la tâche, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a quasiment pas de tâche, même pas dans sa fonction ergonomique. C'est-à-dire qu'on a une incapacité, un sentiment d'impuissance, une inefficacité et une impossibilité de concevoir une tâche qui permettrait justement d'organiser autrement le travail des élèves, de mettre la classe au travail. Ce qui est assez rapidement activé sous certaines conditions, parce que là aussi on se rend compte qu'il y a des débutants qui ont beaucoup de mal à sortir de ce premier niveau, et là ça soulève des questions justement en termes d'accompagnement et de formation, chez ceux d'entre eux qui arrivent à sortir la tête de l'eau, on a une première forme de recherche d'efficience, c'est-à-dire d'économie dans l'usage de soi, qui se caractérise par les caractéristiques suivantes, des formes de protection de soi. Donc là, on est vraiment sur l'orientation centripète, c'est l'activité relative à soi-même, l'usage de soi qui est premier, au détriment de la pertinence didactique souvent. Des formes de surintervention, voire de mise en œuvre de panoptique à la Foucault, c'est-à-dire des dispositifs disciplinaires particulièrement contraignants, où le moindre détail est pris en compte, etc. Des tentatives de mettre en place des configurations de classes structurantes avec des activités ritualisées, comme par exemple le fait d'utiliser la mise au travail des élèves à partir d'un exercice ou d'un texte à recopier au tableau comme une façon de prendre la classe. Et donc, alors ce qui est intéressant, c'est que dans le travail qu'on conduit avec l'UCRIA, aussi bien en Seine-Saint-Denis que sur l'Académie d'Aix-Marseille, on retrouve des façons de faire qui sont très communes à ce deuxième niveau, ou plutôt forme provisoire d'adaptation, hein, et notamment cette centration sur la fonctionnalité que je qualifierais d'ergonomique de la tâche, c'est-à-dire des tâches ritualisées qui évitent la mise en œuvre de rituels qu'on va avoir à l'œuvre chez des enseignants beaucoup plus expérimentés, l'appel, etc., qui non seulement n'aide pas les débutants à prendre la classe, mais même entraîne très rapidement un désordre qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc c'est ce que Luc appelle des îlots de stabilité provisoires. Et là, vous voyez qu'un des problèmes, c'est, quand je parlais de réactualiser les compromis, c'est qu'à ce stade-là, les débutants retrouvent une forme de pouvoir d'agir, Ils n'ont plus l'impression que les élèves se mettent à avoir un rapport indépendant de leur propre activité. Et ça, ça génère, et je pense que c'est très important d'avoir en tête, une sorte de plaisir de l'efficacité. Mais le risque, c'est de s'enquister dans cette forme provisoire d'activité qui permet une protection de soi, mais qui laisse de côté la question justement des effets en termes didactiques du travail de l'enseignant. Donc à ce stade-là, les savoirs sont instrumentalisés, ce qui signifie que ils sont au service de la mise au travail des élèves. Et vous voyez que dans ces formes d'alternance, à un moment donné, et là aussi pas sous n'importe quelle condition, la question du sens est réactivée, et donc on passe au niveau 3. Mais ce qu'il faut voir là aussi, c'est que bien souvent, ce qu'ils gagnent du point de vue de la réflexion sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils font faire aux élèves, ils le perdent dans un premier temps en efficience. Et on a là un portrait type de ces enseignants qui sont à cette configuration de l'activité. Le sentiment, c'est un terme qu'on trouve dans des autoconfrontations, aussi bien chez Luc que dans mes propres autoconfrontations, le sentiment d'être dans l'arène, un sentiment de fatigue et d'usure précoce, d'être tout le temps à la tâche, à la peine. Des formes de relations avec les élèves qui passent par de multiples formes d'individualisation. Des tentatives de relancer, de redonner les consignes, de réguler, etc., avec un souci de légitimer les savoirs, alors pour les PCL par exemple, de légitimer sa propre discipline, donc un souci de pertinence didactique aussi dans les tâches assignées aux élèves, mais encore une fois, ce gain en pertinence didactique, il se paie souvent provisoirement d'un recul sur le plan de l'efficience de l'activité. Et donc, du coup, à un moment donné, se repose la question d'une nouvelle recherche d'efficience. Et là, on a un quatrième niveau qui caractériserait provisoirement, parce qu'on pourrait bien sûr continuer, mais qui caractériserait un ensemble de débutants qui, bien entendu, avec cette idée que les niveaux successifs intègrent les niveaux précédents, les dépassent mais les intègrent aussi, et notamment essaient d'intégrer les acquis antérieurs, qui se caractérise par l'apparition de formes de communication non verbale. Et là, bon, vous avez tous en tête les indicateurs qu'on pourrait prendre là, les postures, les regards, le silence, les formes de déplacement, la façon de jouer de la voix comme outil professionnel, etc. Qui aussi se traduit par des prises en compte du collectif de travail que constituent les élèves, et pas seulement de la juxtaposition d'individus qu'on a en face de soi, avec une tentative de s'appuyer justement sur le collectif et d'utiliser le collectif comme un moyen de régler les problèmes de justice entre individuel et collectif. Des exigences personnelles et collectives qui sont directement prises sur la matière enseignée ou les matières enseignées pour les professeurs des écoles. Et à ce stade-là, on a une place des savoirs. Alors, on avait dans un premier temps avec Luc utilisé cette formule-là. Je suis pas sûr qu'elle soit très... Les savoirs d'évoluer au sens de la didactique, c'est-à-dire qu'on fait d'évolution de la responsabilité de l'apprentissage aux élèves. Voilà. Donc, ce modèle-là, on l'utilise en formation de formateurs, mais on l'utilise aussi avec des débutants. Et on a réalisé récemment avec Luc une formation de formateurs où on travaille en parallèle avec des formateurs IUFM et avec des enseignants débutants, et où on a travaillé, alors bien sûr pas au même niveau, mais sur le même modèle. Alors je vais essayer de distinguer les deux aspects, formation de formateurs et débutants. Concernant la formation de formateurs, l'idée était justement d'amener à appréhender le développement de l'activité des enseignants débutants à travers cette idée d'efficacité dynamique, entre recherche de sens d'un côté et recherche d'efficience de l'autre. Et le fait que, au fond, la compétence est le résultat d'un tissage entre ces deux questionnements, sur le sens d'un côté, sur l'efficience de l'autre, et que les tâches, du coup, comme instrument pour l'enseignant, elles ont tout intérêt à prendre en compte cette double fonctionnalité, alors que je qualifie, pour faire vite, de fonctionnalité ergonomique d'un côté, fonctionnalité didactique de l'autre. Autrement dit, quelles conséquences ça a, une fois qu'on a en tête cette idée d'efficacité dynamique, sur la nature des tâches qu'on propose aux enseignants en formation? Et là, j'incite, quand je dis propose, et je pense que là, c'est un point aussi sur lequel on sera d'accord avec Roland, pour ce que je connais de ses travaux et puis pour les discussions qu'on a pu avoir ensemble, je pense qu'il est temps de réactiver des débats qui ont cours par rapport à l'apprentissage des élèves, constructivisme ou socio-constructivisme ou transmission, qui sont vifs dans le champ de la réflexion sur l'apprentissage des élèves, et qui mériteraient, de mon point de vue, d'être tout aussi vifs en formation. C'est-à-dire, est-ce que, à un moment donné, il n'y a pas à transmettre aussi en formation? Est-ce que la formation n'est pas un acte aussi de transmission? Est-ce que tout doit reposer sur une construction par les débutants, à partir de leur activité, à partir de la mise en commun, de formes collectives de travail, etc. Horizontale, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas à penser aussi le rôle du formateur dans cet acte-là de transmission? Transmission de quoi? Transmission d'outils. Et je pense que les outils ou les instruments plus largement sont des vecteurs possibles de développement de l'action, et que du coup il y a à réfléchir sur la nature de ces outils et notamment leur double valence, là encore, à la fois ergonomique et didactique. Alors ce que j'appelle valence ergonomique, c'est le fait qu'il faut que ce soit des outils maniables pour ceux qui les utilisent, donc les débutants en particulier. Cette question de maniabilité est tout à fait décisive. Mais non seulement il faut qu'ils soient maniables, mais il faut qu'ils jouent leur rôle d'instrument. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils les aident à résoudre les problèmes qui sont les leurs, il faut qu'ils les aident à recycler leurs préoccupations provisoires. Et là, vous voyez que du coup, ça conduit à concevoir des tâches qui ne sont pas pensées du point de vue de leur seule finalité didactique, mais aussi de cette finalité ergonomique qui est inscrite dans la tâche comme instrument de travail de l'enseignant. Enfin, en tout cas, c'est le point de vue que je défends. Alors, je pense que là, Roland est allé beaucoup plus loin que moi ou que nous dans le travail qu'on fait avec Luc, et je pense qu'il donnera des éléments qui pourront entrer en écho plus ou moins avec ce que je développe là sur le rôle des outils ou des instruments en formation comme moyen d'accompagner et même de développer l'action et l'activité des enseignants. Voilà, donc en formation de formateurs, je pense que c'est intéressant d'enclencher cette réflexion-là pour en quelque sorte déplacer le regard qu'on peut porter sur l'enseignant en rabattant systématiquement les tâches qu'il propose aux élèves sur leur finalité didactique et en ne prenant en compte que ce critère de pertinence didactique. Et donc en laissant de côté le fait que telle configuration de tâches, même si elle est éminemment discutable sur le plan de sa pertinence didactique, et c'est là que peut-être il faut intervenir en tant que formateur pour renforcer cette pertinence-là, comment prendre en compte le fait que tel type de tâche a des effets en retour positifs sur l'activité de l'enseignant, c'est-à-dire l'aide à régler des problèmes de prise en main de la classe, de mise en ordre de la classe, de mise au travail des élèves, etc. Qui sont, je le rappelle quand même, dans un ouvrage récent de Lazuech et compagnie, j'ai oublié, il y a trois auteurs, qui montrent que ces questions-là de prise en main de la classe et de mise au travail des élèves restent des points noirs de l'activité des enseignants débutants, au moins les 5 premières années d'expérience. Alors, voilà un exemple de configuration de classe structurante. C'est un exemple emprunté à Luc. Peut-être vous aurez l'occasion de voir demain des choses plus précises à partir d'autoconfrontation. Prof de maths, Nadia, qui, cette idée de panoptique, campée sur ses deux jambes, en appui sur la règle, qui a un regard circulaire sur le groupe, et qui est attentive aux moindres détails, à la moindre réaction d'élèves, etc. Avec des formes qui sont très caractéristiques de ce premier niveau, en fait du niveau 2 dans mon schéma, que je qualifie moi de surcompensation. C'est-à-dire que bien souvent ils vont au-delà de ce qu'il serait nécessaire de mettre en œuvre en matière de cadre pour pouvoir justement trouver des façons de se protéger qui leur permettent de travailler malgré tout dans des classes très difficiles. Alors là aussi, geste professionnel où elle a appris, elle le dit dans l'autoconf, qu'elle a appris à écrire au tableau en regardant derrière pour voir ce qui se passe dans son dos. Voilà, donc ça c'est, avant de passer au deuxième exemple, et je crois que je vais essayer de me tenir au temps qui m'a été imparti, du côté des formateurs, donc vous voyez bien quelles sont les préoccupations quand on intervient en formation de formateurs et qu'on utilise ce type de matériaux, c'est-à-dire à la fois en appui sur les recherches, mais en même temps, en quoi cette modélisation offre un point d'appui pour identifier des configurations provisoires d'activité en dynamique. Parce que l'intérêt, c'est de les regarder justement d'un point de vue développemental, cette idée d'efficacité dynamique, et de se poser la question des instruments qui peuvent, compte tenu de la configuration d'activité à laquelle se situe tel ou tel jeune enseignant, des instruments et notamment les types de tâches qu'on peut leur proposer, qui vont à la fois prendre en compte ce qui les préoccupe à ce niveau-là, mais en même temps leur faire faire un pas en avant par rapport au niveau supérieur. Donc avec ces alternances entre fonctionnalité ergonomique et pertinence didactique. Deuxième dispositif, cette fois là c'est formation de formateurs et plus particulièrement de professeurs conseillers pédagogiques en éducation physique, où là on s'est appuyé donc sur ces approches et ces matériaux de recherche pour mettre en place un dispositif qui a consisté à faire réagir des professeurs conseillers pédagogiques à un montage vidéo qui avait été réalisé à partir de l'analyse de l'activité de deux d'entre eux, sous la forme d'autoconfrontation, donc deux enseignants volontaires d'un groupe d'une dizaine de professeurs conseillers pédagogiques, donc des professeurs de PS second degré chargés de l'accompagnement des professeurs stagiaires de PS sur le terrain. Deux d'entre eux exerçaient en milieu difficile, alors j'ai pas précisé, c'est par rapport à la préparation au stage enseignant en milieu difficile en EPS. Deux d'entre eux donc exercent dans des bahuts, des collèges très difficiles pour l'un du centre-ville, de l'autre des quartiers nord de Marseille, acceptent d'être filmés, on fait une autoconfrontation simple avec eux, puis une croisée, on élabore avec eux un montage qui, à leurs yeux, semblait représentatif à la fois de leur façon de travailler, des points d'appui qu'ils y voyaient, mais aussi des questions, voire des dilemmes ouverts qu'ils avaient du mal à trancher. Et on utilise ce montage pour faire réagir leurs collègues PCP. Alors l'idée là qui me guidait en tant que formateur de formateurs, avec la collègue avec qui on a travaillé, c'était d'envisager aussi l'activité de conseil, pas seulement à partir de cette activité propre de conseil. Il y a beaucoup de formations qui sont organisées là-dessus, comment conduire un conseil, comment tenir conseil, etc. Et je ne dis pas du tout que c'est secondaire, au contraire, mais il me semblait qu'un des problèmes aussi dans l'activité de conseil, c'est comment les conseillers mobilisent leur expérience d'enseignant dans leur travail de conseiller. Donc c'est là-dessus qu'on avait focalisé le travail. Comment finalement aiguiser la sensibilité au métier de ces professeurs conseillers pédagogiques, et notamment comment les amener à se poser cette question du rapport entre on pourrait presque l'écrire en deux mots, les préoccupations et les occupations, chez eux d'abord, puisque c'est ce qu'on avait en vue, alors on montra en travaillant avec eux sur ce montage, leur révéler quelque chose qui est un peu insu, je vais dire, chez eux, c'est-à-dire le fait qu'eux aussi sont animés par des préoccupations, et que les occupations auxquelles ils se livrent, elles sont tenues par des préoccupations, donc le révéler à travers le travail qu'on faisait sur le film, mais du coup, en le révélant chez eux, les amener à poursuivre cette réflexion-là en direction des stagiaires, c'est-à-dire, si on est préoccupé en tant que professeur, conseiller pédagogique expérimenté, a fortiori, les stagiaires doivent être aussi organisés par des préoccupations qu'il faut pouvoir identifier, et donc il faut pouvoir les aider à faire quelque chose. Donc cette idée que le métier s'apprend à plusieurs voies, et qu'il est important en formation d'interroger les écarts entre le métier tel qu'il est prescrit, les référentiels, les savoirs de référence, etc., le métier tel qu'il est matérialisé dans ce que j'appellerais à la suite de Claude la singularité des styles personnels, de façon de faire incorporer, qui sont liés à un retravail du métier pour soi-même, et puis des dimensions plus génériques du métier, une sorte de culture professionnelle partagée, en devenir, etc., qui est aussi une des voies à travers le métier devrait pouvoir parler. Or, un des problèmes en formation, c'est que souvent, c'est plus de la cacophonie que de la polyphonie qui s'instaure autour de ces différentes voies. Et bien souvent, les stagiaires sont très critiques à l'égard de ces dissonances entre différentes voix qui sont censées faire parler le métier, celle du formateur, celle du PCP, celle de l'IMF pour les professeurs des écoles, celle de l'UFM, la prescription secondaire, qui est l'idéal pédagogique, etc. Dissonance qui souvent est laissée à leur charge, dont la résolution est laissée à leur charge. Et là, il y a un problème, effectivement, de comment on organise en formation le fait qu'il y a forcément une pluralité de voix qui ont vocation à parler du métier, mais comment ne pas laisser les stagiaires régler tout seuls la question de finalement qui a raison, parce qu'ils le formulent en ces termes-là. Mais entre ce que m'a dit l'EEN, entre ce que me dit l'IMF, etc., mais finalement, qui a raison? Qui je dois croire? Qui détient la vérité du métier? Et donc, ça conduit à des attitudes très peu productives par rapport à l'apprentissage du métier, justement. Alors, voilà très rapidement l'exemple, et je vais terminer là-dessus. Voilà le type de film qu'on a utilisé, de montage. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit montage très court, mais premier intérêt, on a donc là le dispositif, ils sont en train de regarder le montage vidéo qui a été réalisé avec les deux collègues, qui est constitué donc de morceaux de films de classe, de morceaux de autoconfrontation simple et de morceaux de croisés où il y a des discussions, des controverses entre eux. Ils réagissent, donc le premier collègue demande l'interruption du déroulement du film, et en fait, il explique que par rapport à ce que dit l'un des deux collègues, qui lui a une... une expertise assez impressionnante dans la façon de créer les conditions du silence pour pouvoir s'adresser aux élèves. Il est capable de les garder une dizaine de minutes pour leur expliquer, faire le lien entre la séance précédente et ce qui va se passer, etc. Alors que c'est une classe très difficile. Et lui, qui est professeur conseiller pédagogique, mais il est l'un des nouveaux PCP là dans la formation. Il est en position charnière entre néo-enseignant et néo-conseiller pédagogique. Il dit, mais moi, là, ça, je suis incapable de le faire, en fait. Je suis obligé, et là il fait appel d'ailleurs dans ce qu'il dit à une ressource qu'on voit à l'œuvre chez ceux qui sont au niveau 2 dans ma modélisation, c'est-à-dire des façons, alors en EPS la manière de mettre la classe au travail pour pouvoir l'apprendre, c'est de les crever à l'échauffement, et ensuite une fois qu'ils sont bien crevés, c'est ce qu'il dit, on les rassemble, et là on peut passer des consignes, on peut leur dire voilà la dernière fois on a fait ça, etc. Donc on voit bien là la fonctionnalité ergonomique qui prime sur la pertinence didactique de l'échauffement, puisque en EPS l'échauffement ça a aussi une fonction didactique, ça peut-être même, enfin, ça, non, j'allais dire d'abord, non, pas d'abord, parce qu'on se rend compte que dans le métier, elle a aussi cette fonctionnalité ergonomique, mais la question de la pertinence didactique de l'échauffement est liée au fait que quand on fait telle ou telle activité physique et sportive, ça nécessite un type de travail particulier dans l'échauffement qu'on propose. Comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout du... ouais, que du coup émerge une controverse entre eux, hein. Parce que la collègue qui vient d'intervenir, elle précise que elle, justement, elle a la tendance inverse à les garder, à discuter, à essayer de régler le problème avant de les mettre en activité. Donc d'autres collègues vont intervenir, prendre la parole. Et vous voyez que l'objectif, c'était justement de faire en sorte que ce qui était objet de controverse entre les deux, d'entre eux, cette controverse-là soit rapatriée dans le collectif, avec un travail à double détente, hein, dans cette formation de formateurs. À la fois, vous voyez que dans un premier temps, et c'est ce qui est le cas là, c'est leur propre activité qui est objet d'analyse et de co-analyse. Donc en fait, ils remobilisent leur propre activité, mais dans des termes assez neufs, parce qu'ils se surprennent finalement à découvrir des choses qu'ils font et dont ils n'auraient pas forcément parlé, c'est ce que va dire l'un d'entre eux au stagiaire. Et du coup, on se rend compte en cours de discussion entre eux que cette activité qui était au départ tournée vers eux-mêmes, vers leur propre choix, leur propre compromis, etc., progressivement dans la discussion qui s'instaure entre eux, elle devient tournée vers les stagiaires en disant, mais hop, il y en a un qui arrête à un moment donné, en disant, mais ce qu'on vient de dire là, je pense que c'est très important qu'on en discute avec les stagiaires. Parce que finalement, on leur dit jamais ça. Donc vous voyez comment l'hypothèse qui nous avait conduit au départ à proposer ce dispositif, c'est est-ce que, pour reprendre la formule que j'avais utilisée, en aiguisant la sensibilité au métier de ces PCP, on ne se donne pas des moyens que peut-être on a tendance à laisser un peu de côté quand on se centre uniquement sur tenir conseil. On ne se donne pas les moyens de reposer la question de comment on peut aider de jeunes stagiaires à progresser, à réactualiser leur compromis, à partir de la découverte que soi-même on fait des compromis qui sont provisoires, réactualisables, etc. Donc, pour finir, si j'essaie de synthétiser, j'avais d'autres bouts de films à vous montrer, mais peut-être que ça prendrait trop de temps. En analysant leur activité, donc ces professeurs conseillers pédagogiques réalisent que leurs occupations, entre guillemets, elles sont liées à des prescriptions, bien sûr, à ce qu'on leur demande de faire, mais qu'elles sont aussi liées et tenues par des préoccupations, que chacun d'eux s'efforce de recycler de manière plus ou moins efficace. Et là, un des enjeux de ce type de formation, c'est aussi de peut-être déboucher sur de nouveaux attendus génériques partagés, hein, qui permettent justement un recyclage des compromis plus ou moins éclatés, je dirais, que les uns et les autres font, parce que ça se conclut, alors je crois que j'ai pris juste un petit bout de verbatim pour vous le montrer, ça se conclut par l'intervention de celui qu'on voit parler en tout premier lieu, là, qui dit... Finalement, je me rends compte que ce qui nous manque énormément, c'est qu'on n'a pas le temps de discuter de ça entre nous. Et finalement, on fait tous des compromis, ils sont pas tous les mêmes, mais ça renvoie à des questions un peu communes, je paraphrase. Hein. Et il dit, finalement, c'est peut-être de ça qu'on souffre le plus, à la fois dans notre métier, mais aussi dans notre métier d'enseignant, mais aussi dans notre métier de formateur. Donc, ils réalisent du même coup que les stagiaires qu'ils accompagnent seront eux aussi pris entre des prescriptions d'un côté et des préoccupations de l'autre. Voilà, alors par exemple Yannick qui dit peut-être qu'en fin de compte on arrive au même résultat, c'est-à-dire qu'il découvre qu'il y a plusieurs façons différentes de faire la même chose, finalement, c'est une diversité de styles qui conduit au même résultat, qu'il y ait cette séquence de présentation de séance ou qu'on entre directement en activité, on arrive peut-être au même résultat, et pour moi les stagiaires, il faut qu'ils essaient tout ce qui est à leur disposition, qu'ils trouvent la meilleure solution pour eux. Hein. Premier niveau de formulation qui n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Et puis, voilà la conclusion de Yannick. Après, je me rends compte que c'est un truc qui, à un moment, je le faisais beaucoup. C'était dans l'air du temps. Et puis, je me rends compte qu'au jour d'aujourd'hui, je suis passé à d'autres préoccupations. Et j'ai complètement arrêté de le faire. Alors que je pense que c'est vachement important, que ça aide les gamins. Donc c'est tout ce qui tourne, tout ce qui passe par la verbalisation, etc., qu'il a en vue. Que c'était vachement intéressant de venir aujourd'hui. Je suis content d'être venu. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire et on ne sait pas si ça marche, on ne sait pas si on fait bien ou si on fait mal. Je crois beaucoup au retour des gamins, mais au-delà de ça, on n'a pas beaucoup de retours sur notre propre pratique. Et vous voyez que du coup, en fait, on est en permanence, on a eu tout au long de la session de formation, ces allers-retours entre leur propre pratique d'enseignant et leur pratique de formateur, et comment cette pratique d'enseignant, sous quelles conditions, elle peut devenir une ressource dès lors qu'elle devient objet d'analyse dans le conseil et l'accompagnement des jeunes stagiaires. J'en ai fini.